Avec le vice-président des Républicains, ancien député de Vaucluse, Julien Aubert, bonjour.
Bonjour.
Avec Alain Duhamel, bonjour Alain. Bonjour. On a vu ces deux jours d'insurrection, la situation est toujours tendue, violente. Est-ce que le chef de l'État ne l'a pas anticipé? Est-ce qu'il est dépassé par ce qui est en train de se passer,
Alain? Écoutez, sur la Nouvelle-Calédonie, qui est un sujet horriblement difficile à traiter, pas depuis aujourd'hui, il y a deux méthodes. Elles ont en commun de commencer par le rétablissement de l'ordre, ça c'est la moindre des choses, l'une et l'autre. Et pour le reste, elles se différencient. Il y a la méthode classique. La méthode classique, c'est on fixe des échéances, un calendrier. Dans ce calendrier, il y a des votes. On vote au Sénat, on vote à l'Assemblée, puis on fixe un congrès. C'est impeccablement démocratique. Simplement, ça ne marche pas. Et c'est ce que le gouvernement a fait depuis deux ans. Il y a une deuxième méthode. La deuxième méthode consiste à savoir que ça va être long, difficile, ingrat, assommant même, qu'il faudra envoyer des médiateurs, que ça prendra trois ans là où on pense que ça devrait faire trois mois, qu'il n'y aura de solution que si elle est vraiment globale et qu'elle englobe toutes les crises, c'est-à-dire la crise politique que tout le monde voit malheureusement, mais aussi la crise économique et la crise sociale qui sont terribles en ce moment en Nouvelle-Calédonie. Celle-là, je ne dis pas qu'elle va marcher, mais elle peut marcher. Et ce que j'espère, pensant que la méthode précédente était la mauvaise, ce que j'espère, c'est que celle-ci, elle va être vraiment tentée maintenant. Et là, je regarde de près et je ne sais pas encore.
Moi, je crois que Emmanuel Macron a plusieurs fois prouvé qu'il avait un problème avec la complexité de certains sujets et la volonté d'accélérer les choses, avec une croyance aussi que, quelque part, sa personnalité, son style peuvent permettre de changer la donne. Je me rappelle le Liban, où il était arrivé sur un problème très complexe en pensant qu'en quelques jours, il allait révolutionner, ou lorsqu'il avait fait ses annonces fracassantes sur le conflit israélo-palestinien. Donc sur la Polynésie, sur la Nouvelle-Calédonie, il y a une part de responsabilité du président de la République qui a voulu quelque part changer le tempo d'un processus qui le dépasse, parce que ça ne correspond pas, à mon avis, à son sens du temps court. Pour quelqu'un qui invoque autant le temps long, je trouve qu'il est quand même beaucoup dans la volonté de montrer qu'il a les choses en main, et comme à d'autres occasions d'ailleurs, ça s'est traduit par cette éruption de violence que on pouvait en partie anticiper. Après, on va pas mettre la responsabilité uniquement sur Emmanuel Macron.
C'est avant tout les émeutiers qui
parce que voilà, d'abord il y a des ingérences. On cible l'Azerbaïdjan. En fait, c'est surtout la Chine qui depuis de nombreuses années attend en Polynésie comme en Nouvelle-Calédonie de récupérer ses territoires, même s'il a la Nouvelle-Calédonie.
Pour des raisons économiques, parce qu'il y a du nickel en Nouvelle-Calédonie.
Bon, pas seulement, parce que c'est un jeu de bataille géopolitique entre l'AUKUS, c'est-à-dire l'alliance américano-australienne, et la Chine, et que dans ce grand jeu, nous nous sommes un tout petit territoire au milieu, et en réalité, nous ne sommes des alliés de l'AUKUS, enfin des États-Unis, mais on avait vu sur les sous-marins australiens qu'on est des amis pas toujours bien traités.
On s'est fait avoir.
Et ensuite, parce que la Chine a des diasporas, elle utilise l'influence culturelle. Et d'ailleurs, la France avait refusé d'installer un institut Confucius en Nouvelle-Calédonie pour éviter que se reproduise la même chose qu'en Polynésie. Voilà, donc il y a des éléments comme les ingérences extérieures, et je termine rapidement. Et puis, effectivement, la crise économique qui fait qu'à un moment donné, il y a aussi des conditions objectives d'une explosion de violence.
Alors, je ne vous dis pas que Emmanuel Macron a été celui qui a le mieux compris le problème de Nouvelle-Calédonie. Je connais d'ailleurs pas tellement de cas où à droite ou au centre, on est très bien compris. Pour l'instant, ceux qui avaient très bien compris, c'était Michel Rocard et ensuite Lionel Jospin. C'est eux qui ont obtenu des résultats et qui ont stabilisé les situations. Maintenant, aujourd'hui, je veux dire que il est parlé trop tard ou trop tôt, qu'il a eu le style ou pas le style, qu'il aime la complexité ou pas la complexité. En réalité, on s'en fiche complètement. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui est susceptible de se passer. Or, le problème est qu'il y a, vous aviez raison d'en parler, des ingérences étrangères réelles, qui sont pas du tout de l'imagination, mais qui a surtout trois crises en même temps. Il y a la crise politique qu'on voit, la violence. Qui n'est pas directement inspiré d'ailleurs par les partis indépendantistes.
Non, ils sont même débordés.
Oui, ils sont débordés. Mmh. Bon, donc il y a cette crise-là, on le voit malheureusement. Il y a la crise économique qui est dramatique en Nouvelle-Calédonie, puisque la Nouvelle-Calédonie repose essentiellement sur le nickel que le cours du nickel s'effondre et que les trois grandes entreprises de transformation du nickel sont toutes au bord de la faillite et que des repreneurs pas du tout désintéressés et pas du tout français montrent déjà le bout du nez. Et puis, ça n'explique en rien les pillages, les violences et encore moins les coups de feu. Il y a la question des jeunes Kanaks qui, effectivement, ont très peu de débouchés, pas toujours assez de formation, qui vivent horriblement mal, avec un niveau de vie qui est pour les jeunes Kanaks inférieur de moitié à ceux de la métropole, Et donc, il y a l'accumulation de ces trois crises. C'est pour ça que je dis que c'est à piloter, c'est quand même drôlement difficile.
Vous semblez minorer quand même le fait que la grande force des accords de Nouméa, c'est qu'en réalité, ils ont bâti une forme de légitimité d'un processus où les deux parties n'ont pas forcément d'ailleurs les mêmes objectifs, les uns l'indépendance, les autres le maintien. À partir du moment où le troisième référendum a été boycotté par les indépendantistes, on a perdu en réalité de la légitimité.
Bah oui.
Et pour moi, là où Emmanuel Macron en quelque part a raté le virage, c'est qu'il s'est appuyé sur un référendum qui, de facto, montrait en réalité une crise latente du côté indépendantiste pour accélérer le processus. Ça n'invalide pas ce que vous dites, je dirais, sur la crise économique, mais il y a eu quand même, à mon avis, de la part du gouvernement français, un manque de lucidité ou de réalisme sur le fait qu'on pouvait pas... C'est quand même de la vieille marqueterie, les accords de Nouméa. C'est une machine artisanale. C'est quelque chose qui a été pensé et peaufiné pendant 30 ans, qui fonctionnait très lentement. Il a voulu mettre un coup d'accélérateur sur les 50 derniers mètres et il s'est pris...
Je vous dirais d'abord... ce qui quand même est un des petits éléments dans l'histoire, que vos amis du Parti Républicain et que le Rassemblement National ont voté comme un seul homme. Ont voté là, je veux dire ça. Oui. Là, je ne parle pas du passé, je parle la semaine dernière.
On vous propose le texte de loi. Je veux dire, la position des Républicains, c'est le maintien de la Nouvelle-Calédonie à la France. Maintenant, l'erreur était de le présenter. Parce que...
On n'est jamais obligé.
Parce que vous savez très bien que si nous étions opposés à ce texte, on nous aurait dit qu'on était contre le maintien de la Nouvelle-Calédonie.
Pas du tout. Il suffisait, comme vous l'avez fait 100 fois, d'aller prendre un café, et puis voilà, au moment du vote.
Non.
Bien sûr que si.
Non, ça ne se fait plus.
Mais c'est ça.
Ça, on aurait dit qu'on se moque des Néo-Calédoniens.
Mais... que la méthode. Alors, il faut quand même dire quand même deux choses. La première, c'est que s'il y a aujourd'hui ce qu'il y a eu, c'est-à-dire, au fond, essayer de faire en 2 ans ce qu'il aurait fallu essayer de faire en 5, probablement. Bon, s'il y a eu ça, c'est parce qu'il y avait quand même un déficit démocratique flagrant pour tous ceux qui étaient en Nouvelle-Calédonie depuis 1998.
D'accord, 20% du corps électoral.
Ben oui, mais 20%, vous accepteriez que dans la métropole, il y ait 20% des Français qui ne puissent pas voter. La raison de l'accélération, le fait qu'ils aient été trop vite par une mauvaise méthode, c'est parce qu'il y avait aussi une pression et une montée du côté des caldoches, c'est-à-dire ceux qui sont d'origine lointaine de la métropole et qui supportaient très très mal que ceux qu'ils connaissaient, qui étaient autour d'eux, des enfants qui étaient nés d'eux sur place et qui n'avaient connu que la Nouvelle-Calédonie, soient des sous-citoyens au plan local. Et c'est ce facteur-là, il ne faut quand même pas le sous-estimer.
On comprend tout à fait cette argumentation, mais néanmoins, pendant 3 jours, l'État a été complètement dépassé, 2 gendarmes sont morts, 3 policiers ont été grièvement blessés par balles, et donc quand même se pose la question de l'ordre, du respect
de l'ordre dans ce pays.
Nouméa doit rester français et laisser faire des choses qu'on ne laisserait pas faire sur le territoire.
Il n'y a pas eu des gendarmes ou des policiers, il n'y a pas eu des gendarmes qui sont morts en juillet dernier. D'abord, on ne dit pas que Nouméa doit rester français. On dit qu'on doit arriver à un accord qui sera forcément le résultat d'un marchandage pour qu'il y ait une citoyenneté néo-calédonienne dans laquelle chacun ait sa place légitime. Deuxièmement, il ne faut pas non plus sous-estimer un facteur politique et démographique supplémentaire qui est que les Kanaks sont irrésistiblement de plus en plus minoritaires dans leur propre pays.
Et pas tous indépendantistes, d'ailleurs.
Et pas tous indépendantistes, bien entendu. De même que tous les caldoches d'origine métropolitaine ne sont pas tous partisans du statu quo. Certains sont d'accord pour une évolution, bien sûr.
Environ 6 à 7%.
Mais Oui, mais ce qui est très important quand même, c'est de se rendre compte à quel point de se dire d'une part qu'il y a 20% de citoyens français qui ne peuvent pas voter sur place, mais du côté des Kanaks, de se dire qu'ils sont aujourd'hui 40%, mais que s'il y a les 20 000, ils seront peut-être que 35%, et surtout que tous les nouveaux arrivants qui viennent d'Asie, voilà, c'est dans ça. Des conditions qu'il faudrait regarder de près d'ailleurs, mais qui sont très nombreux, et eux, ils sont pour rester dans la République et pour notamment profiter du système social métropolitain, ça c'est bien clair.
Néanmoins, Emmanuel Macron a quand même traversé plusieurs crises sécuritaires. C'est quand même, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les émeutes, il y a eu les manifestations très violentes, il y en a une de plus là. Que se passe-t-il ? On a l'impression que ça s'accélère, d'ailleurs, ces crises sécuritaires.
Ouais, alors, moi, je pense qu'il y a un phénomène, sous-jacent, qui est, on le sait, la montée de la violence dans la société, la crise de la démocratie.
Ils sont jeunes, hein, les émeutiers. Hein.
Oui, la crise de l'autorité, l'appauvrissement du pays, parce que on parle de la Nouvelle-Calédonie, mais en réalité, plus le décrochage économique de la France, qui s'est accéléré sous la mandature actuelle, s'accélère, moins nous avons aussi les moyens de répondre parfois aux des attentes légitimes. Parce que, on pourrait poser la question, là, c'est pas le moment aujourd'hui, mais nous avons laissé ce territoire vivre uniquement du nickel. On sait ce qui arrive dans des pays qui sont mono-production. Les pays arabes, lorsqu'ils ont eu des crises du blé, il y a eu le printemps arabe. Bon. Donc, ou quand vous avez le problème du pétrole. Donc, en réalité, il devrait y avoir une vision en termes d'aménagement du territoire en se disant, aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, c'est le nickel, mais on pourrait peut-être installer d'autres type d'industrie, de telle manière à créer de l'emploi et équilibrer. Voilà, donc il y a, je dirais, ce problème de, on va dire, structurel. Et puis, dans la relation d'Emmanuel Macron à l'autorité, c'est quelque chose qu'on a observé à plusieurs reprises, c'est-à-dire à la fois une forme de raidissement, de verticalité en disant « le chef, c'est moi ». Et puis ensuite, face à des débordements, la tentation quand même de lâcher beaucoup d'argent, généralement, et de lâcher sur le fond.
D'accord, mais, déjà remboursé les dégâts.
Alain, quand même, il y a trois anciens premiers ministres qui avaient prévenu, enfin Manuel Valls, Édouard Philippe et Jean-Marc Ayrault.
Oui.
Donc pourquoi et plus les avertissements locaux, ces signaux n'ont-ils pas été entendus et écoutés ?
Je vous ai dit que je trouvais que la méthode utilisée depuis 2 ans était la mauvaise méthode. Je vous l'ai dit, je le répète volontiers.
La méthode est
ce que je pense. La méthode qui était en place, parce que il y a aussi le fait que, par exemple, traditionnellement, c'était le Premier ministre qui était chargé du dossier, c'était le ministre de l'Intérieur qui s'en est vraiment occupé d'ailleurs.
Oui, il était
7 fois, etc. Mais c'est pas la même chose.
Gabriel Attal, lui, ne veut pas s'en occuper.
Non, Gabriel Attal, il arrivait, franchement.
Madame Borne aurait pu s'en occuper.
Là, en ce moment, j'ai pas l'impression.
Entre Édouard Philippe et Gabriel Attal, il y a Isabelle Borne.
On peut se poser la question.
Il y a même eu Jean Castex.
Non, mais c'est pour ça que je vous disais que depuis 2 ans, on avait pris la mauvaise méthode, on avait fait fausse route. Bon, maintenant, sur les montées de violence, qui sont évidemment à la fois une horreur spectaculaire, etc., etc., en ce qui concerne la violence, cette fois-ci, en Nouvelle-Calédonie, il y a un facteur très simple, et ça, pour le coup, c'est pas le président de la République qui décide ça, c'est le ministre de l'Intérieur. Pourquoi est-ce qu'il y avait moitié moins de CRS et de gendarmes que la dernière fois qu'il y avait eu des problèmes? Moitié moins. Bon, évidemment, dans ces cas-là, la réponse, elle est plus difficile.
Attendez. On est d'accord pour dire que quand trois anciens premiers ministres disent « ça va péter », que vous confiez au ministre de l'Intérieur et qu'il réduit de moitié les effectifs,
si on vous écoute, on a l'impression qu'il y a trois anciens premiers ministres.
C'est moi qui vous écoute, Alain.
Attendez. Ça dépend des fois. Si on dit qu'il y a trois anciens premiers ministres, effectivement, qui, au fond, font une mise en garde en disant « attention, c'est en train de se bloquer, ça va être dangereux ». Bon, s'il y a ces trois premiers ministres, on ne s'est pas dit ensuite à l'Élysée, à Matignon ou même au ministère de l'Intérieur, c'est un piège qu'on nous tend, évidemment. Mais ils étaient embarqués. À tort, je le dis pour la troisième fois, à tort dans une méthode qui avait un calendrier, qui avait été annoncé.
Ils ont été rigides.
Ils ont eu tort d'être rigides, je suis bien d'accord.
Bon. Mais plus ils ont aussi. Le problème de force de l'ordre qui n'était pas suffisant, le nombre n'était pas suffisant.
Oui, et c'est pour ça
les habitants étaient obligés de se défendre.
Mais bien entendu. Confondre l'ensemble des formes de crise de violence en France avec un problème Macron, franchement, j'aimerais bien que le prochain président de la République...
Il y a quand même beaucoup de crises sécuritaires.
Mais
peut-être
attendez,
qu'un autre...
Mais attendez,
les mêmes.
Mais c'est ce mais que je suis en train de vous dire. C'est pas Macron qui change, c'est la société qui change.
Je pense, d'ailleurs... attendez, moi je pense quand même que quand l'ordre n'est plus respecté, ça coûte toujours beaucoup plus cher de rétablir l'ordre...
Et de réparer les dégâts, parce qu'il y aura beaucoup de dégâts. On parle déjà de 200 millions d'euros de dégâts.
Le sentiment intériorisé de respect de l'ordre. Si vous ne faites pas peur... Si votre justice donne l'impression d'être laxiste, oui. Si vous pouvez cracher la tête d'un policier sans avoir oui. de ou oui, tirer oui, sur un policier oui. sans avoir de sanctions, tu dirais ce qui est arrivé
croirais,
avec.
Je croirais entendre Charles Pasqua. On va terroriser les Merci. Terroristes, on va rétablir l'ordre, on va rétablir Merci. L'ordre.
C'est un compliment pour le général.
Eh bien, quand on regarde les chiffres, il n'a pas fait mieux que les autres. Il a parlé plus haut, plus fort et de façon beaucoup plus drôle, mais il n'a pas eu des meilleurs résultats.
Merci,
d'accord.
Julien.
Et donc, il y a forcément une corrélation.
Merci. Non,
on peut pas parler
tout.
Dur
non.
et agir dur.
Non,
donc si on parle dur, on agit mou.
Non, donc,
Macron parle
non,
mou et agit mou.
Non, donc c'est la
là, il y a une corrélation.
Non, c'est la société qui devient plus violente et d'ailleurs pas seulement la
donc
société française.
Donc il faut de nouvelles
française.
Réponses.
Absolument.
Plus dur.
Et de nouveau,
plus dur.
Et de nouveau
plus dur
gouvernant.
Et plus dur et probablement un peu plus créatrice, plus imaginative.
Et de nouveau gouvernant.
Merci Alain Duhamel.
Julien Aubert-Piétting.
Attendez votre temps.
Piétting.
Merci Julien Aubert.